I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison avant de nous retrouver en septembre. Et je reçois Manu Cause. Bonjour Manu.
Bonjour.
Avec qui nous allons vous présenter son nouveau roman qui s'intitule La Deux Chevaux Vertes et qui est publié chez De Noël. Mais avant d'en parler, la page info. Depuis le 23 juin et jusqu'au 26 juin inclus, le Marathon des mots est de retour à Toulouse avec pour thème cette année la littérature africaine, Africa Nova. Donc de nombreux rendez-vous à Toulouse et autour de Toulouse également, de nombreux écrivains parmi lesquels Tahar Ben Jelloun, prix Goncourt 1987 pour son très beau roman La Nuit Sacrée. Donc un riche programme de belles lectures où les auteurs de notre région sont présents également, parmi lesquels Frédéric Martin, qui sera présente le 25 juin à la médiathèque José Cabanis à 17h30 avec Waïd Diban pour une lecture transmédia autour de son nouveau recueil de nouvelles intitulé « J'envisage de te vendre » publié aux éditions Bellefond. Alors, l'entrée est gratuite et c'est au Red Jardin de la médiathèque de Toulouse, au Grand Auditorium. Pour tout renseignement, vous tapez www.lemarathondesmots.com.
Page à page, Claire Ambille.
Pou-pou-pitou. Merci à Alex pour la technique de cette émission. Alors, La Deux Chevaux Vertes, publiée aux éditions De Noël, c'est donc ton deuxième roman, Manu.
Oui.
Après L'eau des rêves.
C'est ça.
Et donc, et après de nombreux recueils de nouvelles, de pièces de théâtre, de livres jeunesse bilingues, de novellas, etc., etc.
Oui.
Et tu viens de sortir également, on peut le signaler, un livre jeunesse.
Qui est caché sous les papiers.
Oui, mais que ça y est, j'ai trouvé Les Fils de Georges.
Voilà, Les Fils de Georges aux éditions de Talent Haut.
Talent Haut, et donc c'est un livre jeunesse pour adolescents.
C'est un roman jeunesse, oui, tout à fait. Dans
d'accord.
La collection Ego.
Donc, tu viendras nous en reparler à la rentrée. Alors,
ah bah
si tu
oui.
comprends bien, parce que il est tout frais sorti des presses.
Je l'ai reçu aujourd'hui, quasiment.
Et ben voilà. Donc, et puis tu me disais que La Deux Chevaux Vertes, donc ça c'est le roman dont on va parler aujourd'hui, et va être traduit en de nombreuses langues.
Et oui, on a appris ça récemment, qu'il va y avoir une traduction en allemand, une en grec. Voilà, il va y avoir des petits caractères, une en italien et une en néerlandais. Donc.
Eh bien, voilà, bravo. C'est... Mais c'est mérité, c'est tout à fait mérité qu'il y ait un maximum de gens qui puissent lire La Deux Chevaux Vertes. Je pense que c'est très bien comme ça.
Ouais.
Et en anglais, ça serait bien aussi quand même, hein. Peut-être une langue plus
c'est
universelle.
ça passe tout seul. Hein.
Oui. Alors justement, donc la couverture de ce livre, elle est très rigolote, elle est remplie de deux chevaux vertes. Et puis le titre également donc nous rappelle cette voiture mythique devenue un peu rare ces derniers temps. Et puis elle est présente également dans l'histoire, on le verra, elle a son propre rôle. Et d'ailleurs dans ton précédent roman, L'eau des rêves, il y en avait une aussi,
ouais.
Celle de l'anglaise.
Et absolument, elle était bleue celle-là.
Elle était bleue, ouais. Tu changes de couleur, voilà.
Je change de couleur, mais c'est vrai que c'est une
voiture qui te parle.
Oui, alors c'est une voiture qui me parle, et puis en l'explorant un petit peu d'un point de vue graphique, elle a un côté à la fois très féminin, très... très rond, très enveloppant, et puis en même temps quelque chose de très ouvert sur le monde avec
son
toit ouvrant, des choses comme ça.
On a
et
tous
puis,
des souvenirs.
Ça, voilà, ça a été un peu les souvenirs d'enfance.
Voilà.
Tout ça, donc,
on a tous ces souvenirs de balade en deux chevaux, voilà. Les cheveux au vent.
Enfin, les cheveux au vent, moi, c'est pas vraiment ce qui m'a le plus marqué, mais voilà.
mais avec le bouton de démarrage aussi, c'est le ça, bouton, le... Puis la barre transversale sur la banquette arrière qui n'était pas très confortable. Non. Et puis bien sûr, évidemment, quand on pinçait quelqu'un en envoyant une et en disant sans retour.
Sans retour, voilà. C'était d'ailleurs le titre original, c'était Deux joies vertes sans retour. Et puis on a eu peur qu'il n'y ait pas assez de gens de notre âge qui se rappellent qu'on se pinçait.
Même, souvenir. Alors plus sérieusement, c'est un très beau roman qui ne laisse pas indifférent et dont on ne sort pas indemne parce qu'on y pense encore après avoir quitté cette Deux chevaux vertes. C'est un roman plein d'émotions, de sensibilité, de tendresse, de poésie et d'humour aussi. Il y a des petits clins d'œil et puis des passages amusants. Et puis il y a cette écriture, ton écriture Manu, très imagée, poétique, avec les objets qui sont souvent personnifiés et où le ressenti intérieur se mélange au réel de l'extérieur. Toute une alchimie délicate et très juste qui fait que c'est un roman aussi avec des personnages pour la majorité très attachants, plein d'humanité mais aussi avec des zones d'ombre. On le verra, un père, son fils qui est un enfant différent, une deux chevaux vertes, un chaton un peu singulier, des ombres sur la banquette arrière, mais aussi une mère, un gendarme qui est passionné de champignons, une religion qui se mange, comme il le dit lui-même, et puis une adolescente en mal de vivre, et puis un papillon jaune et rouge. Oui. Il y a beaucoup d'animaux dans ce roman, entre la carpe.
Il y a beaucoup de forces un peu difficiles à expliquer qui se sont retrouvées, je ne sais pas si on peut dire personnifiées dans des animaux ou animalifiées.
Oui, parce que la mère, c'est la libellule, le psychiatre qui s'occupe du petit, c'est un bulldog. Il y a des animaux. Et puis alors, on apprend même, enfin moi j'ai appris ce qu'était un babirusa.
Un babirusa.
Oui. Ah oui, alors je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est un
babirusa. Une sorte de phacochère. J'ai dû chercher moi-même sur Internet parce que je voyais bien le. J'en avais vu dans des zoos et je voyais bien quel était l'animal, mais c'est vrai que je retrouvais pas son nom. Donc, oui, je pense que c'est pas loin du sanglier, mais quelque chose de plus, encore plus rablé.
Et de Malaisie. Il est de Malaisie.
C'est ça. Mais je me suis peut-être mélangé entre le babirusa et le phacochère, etc.
Non, mais en tout cas, voilà, on apprend même des choses par rapport à tous ces animaux. Alors, donc, c'est un roman, ou alors plutôt un conte contemporain, si on peut dire, où la citrouille, c'est finalement une deux chevaux vertes. C'est un voyage à la fois intérieur et dans la réalité, et où les personnages vont se croiser au fil des kilomètres, et puis vont grandir aussi, finalement, et où ce qui était avant sera forcément différent après. Et puis on sourit dans ce roman, on s'émeut, on craint le pire, on croise les doigts pour espérer le meilleur et on avale les pages comme les kilomètres pour connaître le dénouement de ce voyage au cœur de la vie. Moi, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un fabuleux voyage.
Merci beaucoup.
Cette deux chevaux vertes.
Content qu'il t'ait plu.
Ah bah oui. Je ne pourrais pas en parler aussi bien s'il ne m'avait pas plu, tu le sais. Donc, l'histoire, on va raconter un petit peu, légèrement, succinctement. Donc la première scène, ça se passe dans un parc où il y a un bassin et dans ce bassin nage une carpe. Et puis il y a donc un père qui s'appelle Eric et son fils qui s'appelle Isaac. Alors Isaac, petite précision, qui s'arrache les sourcils et donc je cite « Il y a ces deux taches rouges au-dessus de ses yeux comme des fantômes en colère, des fantômes qui crient en silence ». Voilà, ça définit déjà un petit peu la différence un peu d'Isaac.
La non-histoire d'Isaac qui effectivement n'est pas réellement présent ici, avec son père, avec nous, quoi.
Un peu autiste, si on peut dire.
Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'autisme, de la psychiatrie, des choses comme ça, mais c'est une espèce de forme de pensée qui est dans la distance, presque la fermeture absolue. Voilà, donc,
Son père dit d'ailleurs de lui à un moment, il a un océan dans le plein le crâne. C'est une forme liquide, où il est. C'est pour ça qu'il aime la carpe, il aime le côté du mouvement de la carpe peut-être dans l'eau.
Il a presque lui-même un esprit océanique, c'est-à-dire qu'il est relié peut-être à des forces qu'on a du mal à percevoir de façon plus terre à terre.
Alors, il y a beaucoup de jolies phrases dans ton livre. Et il y en a une autre aussi que j'ai bien aimée. Et devant la réaction donc, d'Isaac, qui ne veut pas quitter le bassin ni la carpe, qu'il regarde, qu'il ne veut pas partir, le père donc, se répète, donc Eric se répète, je cite, « Il est l'heure de partir », répète-t-il. Et il a l'impression que les mots sont une veste trop petite qu'il aurait enfilée par erreur. Je trouve que c'est une image... Il lui répète la même chose plusieurs fois, mais rien n'y fait de toute façon.
La façon de lui présenter les mots peut faire varier les réactions du petit. Donc c'est très compliqué à la fois. Voilà, c'est le langage dans tout ce qu'il peut avoir de problématique. Sauf qu'il n'y aura jamais le bon mot au bon moment. Cette communication-là n'existe pas entre le père et le fils au début du roman.
Oui, tout à fait. Et donc Isaac est dans un institut et ses parents donc sont séparés.
Voilà.
Donc pourtant ils se sont aimés beaucoup avant la naissance d'Isaac et finalement l'arrivée de cet enfant différent à
Les a d'une certaine façon séparés, oui, même si c'est pas la raison absolue, oui. Hein, ça peut être aussi le fait que cet enfant a réveillé un petit peu certains vieux démons de son père aussi. Donc la vie a fait que le couple n'existe plus et que le lien avec l'enfant est très complexe.
Ouais. Oui, voilà, la mère a des liens très complexes avec l'enfant ou peu de contacts finalement, mm-hmm. Et puis le père a une autre approche avec son fils. Je trouve que c'est beau cet amour qu'il lui porte, cet attachement qu'il a vis-à-vis d'Isaac mm-hmm. et toute cette espérance qu'il met aussi.
Oui, qui est très belle et qui peut être mm-hmm. aussi assez dangereuse parce qu'elle va le pousser à faire des choses. Pas forcément dans l'intérêt de l'enfant, pas dans son intérêt immédiat.
Oui, oui, oui. Alors, et puis, il y a aussi Georges dans ce roman. Alors, Georges, 93 ans aux cerises, comme il le dit lui-même. Et puis, alors, sa femme, donc, Lucie, est morte. Et quand il parle de son état, de son ressenti depuis sa mort, on peut lire « Le moteur était coupé, mais la voiture avançait quand même ». Eh bien, oui, parce que Georges, il est garagiste. Et c'est l'oncle d'Éric.
C'est l'oncle d'Éric, absolument.
Et donc, il va lui léguer à sa mort, hein, parce qu'il va décéder au début du livre, au début du roman. Et donc, il va lui léguer cette deux chevaux vertes, justement.
Très exactement, il ne va pas la lui léguer, il va la lui restituer, puisqu'elle elle appartenait aux parents d'Éric.
Qui sont décédés eux-mêmes dans un accident de voiture. Tout à fait, oui, voilà, il va la lui restituer, tout à fait. Alors, il y a un clin d'œil avec la célèbre série britannique Benny Hill, là aussi, Souvenir, hein, qui ne connaît pas cette série.
Oui, dans une première version du roman, il y avait beaucoup de références à des séries, et puis on s'est rendu compte que peut-être ça, tout ne fonctionnait pas, mais c'est vrai que celle de Benny Hill, avec le petit... voilà, c'est la vision du père qui est marquée par ces espèces de gags un peu entre l'absurde et le stupide.
Oui, ouais,
et
ouais.
Même quand il est dans la colère, dans le ressentiment de voir comment son fils est traité dans l'institut où il a quand même ces souvenirs qui se superposent et il voit le psychiatre sous la forme du vieux de Benny Hill ou du gros
ou du bulldog
voilà.
Et justement il dit aussi du docteur Gallet, donc le psychiatre qui s'occupe d'Isaac, qu'il a une je cite qu'il a une voix douce et grasse comme de la cuisine napolitaine.
Oui, parce que c'était encore une référence à une série, ça c'était aux Sopranos, parce que voilà, physiquement il ressemble à un des personnages des Sopranos. Enfin, en tout cas, pour le père, c'est ça.
Oui,
c'est
vrai oui.
Les séries américaines sont le moyen dont le moyen avec lequel le père aborde le réel. Donc, il fait en permanence référence à ce qu'il a vu.
Il y a aussi le beau film Kramer contre Kramer,
aussi,
qui
ouais,
est
tout
cité.
À fait.
Ah, là, ça aussi, c'est souvenir. Hein. Moi, j'ai pleuré devant le grand écran de Kramer contre Kramer. Ah oui, c'est toute une époque. Et puis, donc, l'ami du. Il y a aussi des phrases très justes quand le père parle de son ami, celui qui déçoit toujours et puis vous dédéçoit. J'ai trouvé que c'était très juste, comme c'est vrai, les meilleurs amis, c'est un peu ça.
Oui, je crois que c'est Pierre Desproges qui disait, alors en substance, parce que je suis incapable de le citer correctement, mais que voilà, on sait que c'est votre meilleur ami parce que c'est celui qui vous déçoit. Et donc, je me suis permis de rajouter qu'il y a le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours la raison pour laquelle c'est votre meilleur ami à la fin. Donc,
vous dédéçoit, tout à fait. Et puis donc il y a le gendarme, ce fameux. Alors, il y a un passage rigolo, c'est le hold-up quand on lit le passage du hold-up avec le gendarme, les chasseurs de champignons et puis les rugbymen. Mm-hmm. Et puis justement donc ce gendarme, c'est un personnage sympathique du roman. Il compatit à la situation du père et il trouve la mère d'Isaac assez revêche.
Disons qu'il a du mal avec cette femme qui est d'une. Pour se protéger elle-même, elle est d'une grande froideur.
Elle a des tics,
mais c'est une façon pour elle de masquer toutes ses angoisses, d'essayer d'assumer
cet
le fait
enfant,
qu'elle est là. Voilà, cet enfant. J'ai une lectrice qui m'a reproché d'avoir fait un personnage assez antipathique, alors que pour moi, c'est quelqu'un d'adorable, la mère, mais qui est...
Adorable, je sais pas.
En tout cas, elle essaie de faire quelque chose pour son enfant et elle est dans la vertu, on va dire, peut-être la vertu outragée. Donc, elle est en permanence dans la colère et ça la ronge d'une certaine façon. Et voilà, et le gendarme, on voit qu'il il l'écoute en tant que... Enfin, quand elle vient lui demander de porter plainte ou des choses comme ça. Et en même temps, des fois, il se dit qu'il faudrait que quelqu'un la prenne dans ses bras pour la rassurer. Quoi. Mais elle n'a aucune envie qu'on la prenne dans ses bras.
Bah oui, puis surtout pas Eric. Hein,
et surtout pas son ex-mari.
Pourtant, comme je disais tout à l'heure, ils se sont aimés. Elle le trouvait romantique comme un paysage de montagne sous l'orage.
Oui.
Ça, c'est joli.
C'est pour rire. C'était une espèce de clin d'œil. Et là aussi, j'ai une lectrice qui m'a reproché cette phrase.
Ah bon?
Il s'agissait d'un clin d'œil. C'est effectivement la scène très romantique, très classique. Mais c'est là, présenté de façon ironique.
Oui,
ça reste joli.
Ça reste, oui, voilà. Et puis, voilà. Et donc, le thème, donc, voilà, justement, de cet enfant différent qui arrive dans un couple et qui peut, chacun gère comme il peut avec sa propre sensibilité, cette situation qui est finalement assez difficile. Et donc Eric va chercher son fils, va à l'institut chercher Isaac, et Isaac va bloquer entre guillemets sur la deux chevaux verte, et finalement va s'en suivre un road movie, mais tout à fait par hasard finalement, parce que le petit va se mettre sur la banquette arrière de la deux chevaux, et puis
par hasard et un petit peu par magie, parce que normalement
aussi,
les portes sont fermées et on ne devrait pas pouvoir sortir si facilement de cet institut, mais
oui, mais comme par hasard, il y avait une porte qui était ouverte, et voilà. Et donc s'ensuit donc ce road movie, si on peut dire.
Un road bouquin, du coup, c'est un road bouquin.
Oui. Voilà. Avec des rencontres qu'ils vont faire au gré des kilomètres, et puis donc comme par exemple celle de Paco, le petit gitan, je pense à lui et à son père, qui vont aider donc Eric et Isaac, et puis ils vont croiser aussi il y a un passage aussi qui m'a beaucoup je voudrais le signaler, qui m'a beaucoup touchée, c'est quand le passage où le père essaye de raconter à Isaac l'histoire de sa naissance et qu'il se perd dans une histoire de torture. Je trouve que c'est très émouvant, d'essayer qu'il essaye de raconter avec ses mots, en essayant de avec des images.
Le grand problème, effectivement, d'Eric, du père, c'est son incapacité à raconter une histoire, c'est-à-dire à faire sens de ce que la vie lui a donné, en particulier de son fils. Et quand il se lance, effectivement, pour lui raconter le récit de ses origines, il se perd complètement. C'est un peu le problème d'Éric Dubon, c'est qu'il a tendance à se perdre très vite.
Oui,
on ne sait pas trop vers où il peut se perdre, et c'est ça qui peut être un peu inquiétant pour lui et pour les autres.
Alors, ils vont rencontrer, au cours de leur pérégrination, ils vont rencontrer Marion. Alors, Marion, c'est une adolescente qui aimerait disparaître, elle aussi, pour des raisons différentes. Elle travaille comme serveuse dans une auberge, et elle appelle d'ailleurs ses patrons les Thénardier, depuis qu'elle a vu la comédie musicale
de Victor Hugo, c'est ça.
Voilà. Alors, c'est dans un village qui, je cite, « doit dormir même le jour ».
Oui.
Et où la lumière, ou une lumière qui fait croire à la beauté du monde.
Comme un petit village. Oui,
voilà.
J'ai pensé,
ouais.
Mais effectivement, alors l'auberge est à côté. Enfin, elle n'est pas directement dans le village.
Dans le village, à côté.
Elle est un peu à l'écart, oui.
Et donc, il y a aussi il y a une belle description des paysages avec le paysage de montagne et d'un lac, justement, avec le lac est immobile, il émerge de la nuit peu à peu, les sommets l'entourent avec une affection distante. Je trouve que c'est joli. Moi, j'aime bien. C'est poétique. Et puis, on imagine ce petit lac là, perché dans la montagne. Et puis Marion, justement, donc la serveuse de l'auberge, donc ils s'installent, en fait, Eric et Isaac s'installent à l'auberge avec, je cite, les hurlements silencieux du petit et la fille au cri de lutin perdu. Et à la conversation qui bondit, imprévisible et papillonnante.
Oui, c'est-à-dire que quand ils se... Alors, ils ne s'installent pas vraiment à l'auberge, ils y tombent un soir, voilà, par hasard, parce que leur road movie est totalement imprévisible et le père ne sait absolument pas où ils vont, comme dans sa vie. Donc, ils tombent sur cette auberge et le personnage de Marion, qui est quelqu'un de pas terriblement stable, on va dire, dans sa vie... étrangement crée une espèce d'équilibre entre le père et le fils. Donc il se crée un équilibre entre ces trois personnages là et c'est le moment où le roman bascule un petit peu vers vers sa fin, quoi.
Oui, tout à fait. Mais j'aime bien parce que Marion, elle instaure une... Enfin, elle aime bien le petit. Enfin, le petit, c'est son père qui l'appelle comme ça, Isaac. Il s'instaure entre eux quelque chose, une communication, finalement. Oui. Lui qui a du mal à communiquer, finalement, il communique bien avec Marion.
Parce qu'elle ne se pose pas la question de la communication.
Oui, voilà. Peut-être, oui, sûrement.
Elle a des tas de soucis, mais pas celui de la communication, puisqu'elle peut parler aussi bien avec des papillons.
Oui.
Avec
oui. Bah, oui, c'est là où il y a le fameux papillon rouge et jaune rentre en scène.
Voilà, oui, c'est un peu... je ne sais pas si c'est l'animal totem de Marion, mais c'est quelque chose, oui.
Ça lui convient bien, en tout cas, le papillon, puisqu'elle a une conversation papillonnante.
Une personnalité un petit peu papillonnante. Donc
il y a du suspense aussi dans ce roman et jusqu'aux dernières pages, mais chut, on n'en dira pas plus. Et il y a une phrase que je vais citer pour un peu terminer un peu ce que j'ai dit du livre, c'est « Le soleil est loin encore, mais le ciel s'est déjà décidé pour le bleu ». Et c'est un peu, je trouve, la fin du roman.
Oui,
on peut dire
qui a hésité longtemps entre le bleu et le gris.
Oui, parce que bon, c'est un livre, c'est un roman qui se termine bien, on peut quand même le dire.
Oui, ça dépend pour qui. Peut-être des...
Oui, ah bah
qui,
oui.
Qui
oui.
Se termine pas bien, mais bon, il se termine en tout cas.
Oui. Bon, moi j'ai trouvé qu'il se terminait bien pour les personnages, voilà, quand.
Oui, j'ai toujours du mal à assassiner horriblement mes personnages.
oui. C'est... Mais donc voilà, quoi. Donc moi, j'ai bien aimé. voilà. Non, mais oui, mais comme il ne faut pas que j'en dise plus, parce qu'après, voilà. Donc non, je ne veux, veux pas en dire plus. Et voilà, enfin, c'est un livre que je recommande chaleureusement, parce que, bon, voilà, en plus, les vacances vont arriver.
Oui, ce serait bien pour l'été.
Ça s'y prête bien, voilà, pour l'été, la deux chevaux verte. Vous emmenez ça dans vos valises, dans votre sac à dos. Ça se lit, enfin, voilà, ça se lit, voilà. On ne le lâche qu'à la fin. Ça, ça c'est vraiment une lecture. Voilà, on avale les pages comme les kilomètres. Hein, ça.
Eh ben, je suis bien content.
Mais en tout cas, merci beaucoup, Manu, pour ce beau roman, La Deux Chevaux Vertes aux éditions de Noël. Et c'est un livre qui te tenait à cœur, parce que c'est quand même, il y a des thèmes, enfin, il y a plusieurs choses hein, dedans. C'est pas un livre tout simple. Hein. Il te tenait à cœur de l'écrire.
Oui, il y avait beaucoup de choses sur le rapport entre le père et le fils qui m'intéressaient. Et puis ça part d'une conversation que j'avais eue avec un petit garçon qui était au bord d'une mare et qui regardait une carpe effectivement, mais qui était triste pour des tas d'autres raisons, et sa façon d'être là, la petite conversation qu'on avait eue m'avait donné cette idée au départ, et ça faisait quelques années que je l'avais en tête jusqu'au moment où j'ai voulu écrire ce
d'ailleurs livre. Ce livre est dédié à ton père et à tes deux fils.
Voilà.
Voilà. Et d'autres projets avant de se quitter en musique?
Oui, tout un tas. Hein.
J'imagine,
J'ai quelques petits projets en roman jeunesse. J'ai un gros roman jeunesse que je suis en train de terminer. Deux, trois autres petits projets. Et puis, je vais faire sans doute une suite. Alors, je ne sais pas si ce sera la suite de La Deux Chevaux Vertes ou quelque chose d'un peu différent.
Ah.
Mais un autre roman adulte.
D'accord. Ouais. Mais une suite. Enfin, il y aura des personnages récurrents. Enfin, un personnage...
Voilà, on en discute un petit peu. C'est...
Bon,
j'en discute tout seul, moi-même.
Tu viendras nous en parler quand ça sera abouti. Alors, nous, on se retrouve le vendredi 9 septembre à 14h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Je recevrai Aurélien Duchesne, libraire bouquiniste au centre-ville de Toulouse. En attendant, je vous souhaite à tous un bel été. d'été, plein de soleil et de belles lectures. Et puis on se quitte avec une chanson de Simon & Garfunkel qui est citée dans le livre et dont je laisse Manu dire le titre.
Sleep Sliding Away.
Voilà, et merci à Alex pour la technique de cette émission encore, et merci Manu.
Merci beaucoup.
Et bonnes vacances à tous, et à bientôt, à Adisiat.
Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. His slip sliding, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And God only knows, God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our jobs, collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away.